Le titre d'un recueil de poésie qui nous inspire à briser les barbelés d'une mémoire trop courte. S'en souvient pourtant la scène d'un massacre automnal de 1961. Nul ne peut rester muet, tous veulent s'exprimer pour décrire par des mots, des images, des articles ou des rimes, par des sons, par des peintures aussi, ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 à Paris. Avec nous sur ce plateau de la mémoire, Monsieur Mahmoud Mouniz, un poète, et Monsieur Kamel Boualem, un cinéaste. Avant d'ouvrir le débat, écoutons l'introduction à la chronologie des événements, un texte de Wahiba Lafifi, présenté par Diazia Ben Habiles.
Le 17 octobre 1961, répondant à l'appel de la Fédération de France du FLN, la communauté algérienne a défilé en masse à Paris pour manifester contre la répression et revendiquer l'indépendance de l'Algérie. Dans les principaux quartiers de Paris, depuis le pont de Neuilly jusqu'au Grand Boulevard, c'est par dizaines de milliers que les Algériens se rendirent au lieu des départs des cortèges. Dans les quartiers de l'Opéra et des grands boulevards, notamment au carrefour Richelieu-Drouot et tout au long du boulevard Haussmann, les Algériens défilèrent pacifiquement dans un ordre impeccable qui a encore donné plus d'impact à la manifestation. D'abord surprises par l'ampleur des cortèges, les forces de police ne tardèrent pas à réagir. Sous les yeux médusés de la population, les policiers tirent dans le tas. Alarme automatique. Première victime tombe à hauteur du cinéma Rex, sur le boulevard Bonne Nouvelle. Un autocar de police n'hésite pas même à foncer sur un groupe de manifestants. Ce fut ensuite la répression la plus atroce qui a conduit les forces de police à canaliser les manifestants pour les contraindre à emprunter les ponts de Paris, d'où ils furent projetés dans les eaux glacées de la Seine. Des centaines d'Algériens périrent ainsi noyés. Ne reculant devant rien, la police procéda ensuite à des milliers d'arrestations et les Algériens furent conduits sous bonne garde dans les centres de tri et dans certains stades où ils firent l'objet de coups de la part des policiers, qui les ont obligés à rester des heures durant les mains sur la tête, assis à même le sol ou allongés. Les mêmes scènes se déroulèrent dans les stations de métro à Concorde et Opéra notamment. Cette main de fer a été la seule réponse à une manifestation pacifique pour la liberté et l'indépendance. De nombreux milieux se sont offusqués de la brutalité de la répression dont l'initiateur a été le préfet de police, Maurice Papon.
Mahmoud Mouniz, vous êtes algérien d'origine argentine, homme de la révolution algérienne, écrivain, poète et quelque part philosophe de votre temps. Et le journal La Nation vous présente le dimanche 19 octobre 1997 en page 7. Je vous lis un extrait. L'histoire du métallurgiste Roberto Mouniz Mahmoud est singulière, natif de Général Villegas, c'est bien ça. Il y a 75 ans, il vivait à Buenos Aires lorsqu'en 54, le Front de Libération Nationale d'Algérie, FLN, allume la mèche de l'indépendance et se rebelle contre la colonisation française. Donc vous avez pris part à cette révolution et vous vous êtes à votre tour révolté contre l'oppresseur. Je reviens à vous, Monsieur Boualem Kamel. Vous êtes producteur, réalisateur à la télévision, auteur de documentaires, de films, homme de recherche dans le monde de l'image. Vous avez suivi une formation en 1975. Vous avez élaboré des études d'archives et vous avez réalisé des films d'archives entre 77 et 82, il me semble. Vous maîtrisez l'outil de l'audiovisuel et vous avez, durant les années 80, monter une série de 3 émissions relatant l'histoire de l'Algérie. Bienvenue, messieurs, sur le plateau des Barbelés de la mémoire. C'est un plateau qui célèbre cette journée du 17 octobre 1961. Et qu'évoque pour vous, justement, cette date ?
Cette date, c'est avant tout une page de l'histoire de la guerre d'Algérie qui s'est déroulée ailleurs que sur le sol algérien. C'est la continuité de la lutte menée sur le sol algérien, donc qui s'est perpétué sur le sol français. C'était là une tentative du Front de Libération Nationale d'internationaliser le conflit et de faire entendre la voix des Algériens un peu partout dans le monde et surtout sur le sol du colonisateur. Donc, reste une page très, 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 très significative de la lutte de libération nationale.
Mm-hmm. Monsieur Mouniz ?
Si, je crois que l'événement 17 octobre 1961 fait partie de une grande quantité d'événements des mouvements algériens, des Algériens partout dans le monde qui luttaient pour la libération de leur pays. Je pense que le 17 octobre, comme il a été par exemple antérieurement le 1960, les manifestations de 1960 à Alger, le 17 octobre c'est encore une expression de l'énorme force des masses algériennes pour se mobiliser pour défendre leurs droits. Non seulement leurs droits et leur indépendance, sinon je pense qu'en 1961 à Paris, ils défendaient leurs droits concrets parce que les gouvernements français ils voulaient les empêcher de sortir dehors après 8 heures.
Mmh. Un couvre-feu.
Un couvre-feu après 8 heures. Jusqu'à ce que c'est n'importe quel citoyen, il va se révolter contre cette mesure complètement discriminatoire avec des citoyens qui habitaient en France et qui étaient un apport à l'économie française, à tout ce qui signifie le développement, la production, la productivité en France. Les Algériens, c'était ça.
La classe ouvrière.
Oui,
aussi.
À ces Algériens-là, on voulait les imposer des mesures. Et ça, il a provoqué les révoltes des Algériens. Mm-hmm. Je crois qu'évidemment, je pense que ce n'est pas encore peut-être tout à fait écrit sur les manifestations d'octobre 1961. Parce qu'il a été d'une grandeur, disons, immense. Parce que non seulement les hommes y sont participés, c'est des familles complètes qui y sont participées. Hommes, femmes, enfants, avec des femmes avec leur petit bébé dans les bras. Hein, mm-hmm. C'est vraiment montrer la profondeur de l'acharnement des Algériens à avoir leur indépendance. Moi, je pense que ça, c'est un événement d'une énorme richesse hein, et que parfois, c'est difficile à exprimer, soit dans la poésie, soit dans la littérature, même au cinéma, mm-hmm. des fois, hein, avec tout ce qu'il y a comme richesse, le cinéma, l'image, hein, que permet aux gens de comprendre plus vite les événements. Même au cinéma, c'est difficile de pouvoir, prendre exactement les sentiments de tous ces manifestants à Paris. C'est ça le plus difficile, je pense.
Et donc, Monsieur Kamel, vous avez monté certaines images de l'histoire d'Algérie.
Notamment d'octobre.
Voilà, notamment d'octobre, et c'est ce que vous allez nous raconter maintenant, votre sentiment lorsque vous avez mis en image ces archives.
Avant tout, ce n'est pas un sentiment, c'est d'abord la première impression, c'est découvrir des images que jeunes, nous n'avons pas vues. Nous les découvrons a posteriori, bien après, dans l'âge adulte. Donc, il y a déjà le fait de découvrir un événement qui nous est propre, qui intéressait les Algériens comme nous et tout. et qui ont quand même écrit une page de l'histoire sur le sol français. Et là, c'était une découverte. Hein. Nous découvrons, au fur et à mesure qu'on cherchait dans les archives et tout, on découvrait des images. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'images. Il faut le dire, les Français n'ont pas laissé grand-chose. Ils ont filmé ce qu'ils ont voulu, donc ils ont filtré, ce qu'on a vu simplement, c'est des manifestations pacifiques. Mm-hmm. Et là, les Français ont orienté les archives vers le fait que c'est des manifestations pacifiques. Ils n'ont à aucun moment montré. On a cherché, on a lu, il y avait le scénario écrit. Et là, on s'attendait à tomber sur les images chocs des gens jetés dans la Seine, ou bien du bus qui rentrait dans les manifestants. Nous les avons malheureusement pas trouvés. Les gens ont filmé ce qu'ils ont voulu. Bon, le drame pour nous à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas des Algériens qui filmaient.
Oui.
Il y avait le colonisateur qui filmait ce qu'il voulait à n'importe quel moment et comme il veut. C'est-à-dire que c'est la guerre. Et chose aussi qui était terrible pour nous, c'est que nous savons pertinemment que dans les manifestations, il y avait un élément très très important, c'était le drapeau algérien qui flottait sur le sol français pour la première fois.
Mm-hmm.
C'était quand même impressionnant. Nous avions devant nous des gens qui manifestaient en plein sol français, alors qu'en 61 déjà ici, on venait de vivre les événements de décembre 60, on se disait que c'était la continuité naturelle, c'est-à-dire que le peuple algérien allait inéluctablement vers son indépendance par les manifestations de rue, par les manifestations de masse. Et là, nous avons ces images, restent des images très, très importantes que le cinéma n'a pas assez bien rendues d'ailleurs. Le film Octobre à Paris, qui a été tourné par un réalisateur français, ne relate pas exactement, ne rentre pas dans le fond de l'événement. Et ça, c'est encore une fois une vision française d'une page de l'histoire.
Justement, nous avons pu recueillir dans certains journaux, ce sont des archives de journaux, des archives qui nous restent, nous avons pu recueillir toute l'histoire qui relate la chronologie de cet événement, c'est-à-dire que le 17 octobre 1961 s'est préparé bien avant,
ouais.
Comme l'a dit Monsieur Mouniz aussi, à partir du couvre-feu qui a été décrété. Et c'est ce que nous allons écouter, ce sont des archives que Waïba Lafifi a pu recueillir, et c'est une lecture faite spécialement pour vous.
Août 1961, des contacts semi-officiels sont noués entre le gouvernement français et le GPRA. Maurice Papon se charge de réduire à tout prix la puissance des négociations. Pour affaiblir le FLN, il se devait de frapper les centres nerveux de sa structure organique. La Fédération de France du FLN n'entend pas se laisser faire et réagit en rendant coup sur coup. Septembre, plus d'une centaine de ressortissants algériens sont arrêtés et expédiés manu militari à leur commune d'origine. Septembre, près de 650 Algériens sont parqués au centre de tri de Vincennes. 12 septembre, aidés des harkis du capitaine Montaner, les policiers français expulsent vers l'Algérie 92 ressortissants algériens. 23 septembre, selon le communiqué de la préfecture de police, 29 087 personnes ont été contrôlées, 659 internés, 184 expulsés vers Alger. Le 24 septembre, la Fédération de France du FLN réagit violemment face à ces brimades, tortures et arrestations. À Issy-les-Moulineaux, une fusillade éclate entre militants du FLN et forces de police. Bilan, deux policiers blessés, un Algérien tué et un autre blessé. 29 septembre, à Clamart, un policier français en civil est blessé. 30 septembre, des militants du FLN attaquent un bureau de police. 4 octobre, un militaire et deux civils métropolitains sont blessés par un individu du type nord-africain. 5 octobre, réunion d'un conseil des ministres spécial terrorisme auquel ont assisté Michel Debré, ministre de l'Intérieur, Monsieur Frey, ministre de l'Armée, ainsi que le préfet de police et le directeur de la Sûreté nationale. Dans l'après-midi, un communiqué est rendu public qui stipule qu'il est interdit aux travailleurs algériens de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne. La Fédération de France du FLN ne l'entend pas de cette oreille. Elle donne l'ordre de faire échec au couvre-feu et lance un appel à la désobéissance, une réaction qui devrait aboutir à la journée du 17 octobre 1961. Le 6 octobre, le couvre-feu est mis en application. 9 octobre, à la suite d'une réunion tenue à Cologne, les dirigeants de la Fédération de France du FLN décident l'organisation d'une manifestation d'envergure pour le 17 octobre. Octobre. 7000 policiers sont sur le pied de guerre. 2 compagnies de CRS et 3 escadrons de gendarmerie quadri-Paris. 18h, les premiers groupes d'Algériens sont arrêtés et conduits à Vincennes et Beaujon. 20h, plusieurs dizaines de milliers d'Algériens défilent dans les artères parisiennes. La répression sera brutale. Des dizaines de morts, des centaines de blessés et plus de 10 000 arrestations. Des corps sont jetés dans la Seine. Le 18 octobre, grève des commerçants, largement suivie. Les gares et les sorties de métro demeurent sous surveillance policière. Plusieurs milliers de jeunes manifestants, malgré les barrages dressés, des centaines d'arrestations sont opérées. 19 octobre, un bilan officiel dresse à 9260 le nombre de détenus. 500 personnes sont expédiées par avion en Algérie. 20 octobre. Devant l'ampleur des massacres, la gauche s'émeut de cette violence à froid. Débrayage dans certaines entreprises à l'appel de la CGT. Aux usines Renault, un meeting rassemble près d'un millier d'ouvriers. Les femmes algériennes, accompagnées de leurs enfants, défilent au Châtelet devant l'hôtel de ville et le palais de justice. Nombreuses arrestations. Manifestations et grèves des travailleurs algériens. À Tourcoing, Valenciennes, Denain, Lourches, en Moselle, en Seine-Maritime, dans les Ardennes et le Haut-Rhin. Le 21 octobre, 2000 enseignants et étudiants se réunissent à la Sorbonne pour dénoncer la répression et protester contre le couvre-feu. Le 22 octobre, la Fédération de France du FLN lance un appel au peuple français. Le journal Libération fait part des résultats de 40 autopsies pratiquées sur des corps de manifestants, plaies au cuir chevelu, émasculation, balles dans le ventre. 23 octobre, 8500 manifestants sont relâchés et 2800 restent détenus. Manifestation de solidarité des étudiants français au quartier latin et à Montparnasse. Le 24 octobre, 3 cadavres d'Algériens sont repêchés près du pont de Beson et un autre près du pont Neuf. 5 Algériens sont enterrés au cimetière de Thiers. Le 25 octobre, le corps de Belaïd Areal est repêché dans la Seine. Le 27 octobre, Louis Jocques se relance les négociations avec le GPRA. Le corps d'un Algérien est repêché à Argenteuil. À 22h30, Achou Boussouf est arrêté par la police, étranglé et son corps jeté dans la Seine. 30 octobre, la Seine charrie le corps de Fatima Bédar. Jusque dans le canal de Saint-Denis, cette corde algérien arrive au cimetière de Thiers. Gaston de Fer demande au Sénat la constitution d'une enquête. De Gaulle juge cette tuerie inadmissible, mais secondaire. L'enquête en question n'a pu apporter à Roger Frey, ministre de l'Intérieur de l'époque, le moindre commencement de l'ombre d'une preuve. Telle est la mémoire officielle française, oublieuse et amnésique.
Le nom de Papon nous revient en début de citation des faits chronologiques de l'événement de 1961. Maurice Papon, cet homme qui a commis des crimes contre l'humanité durant la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Lorsque vous entendez ce nom, quel est votre sentiment, Monsieur Mouniz, Monsieur Kamel?
On a entendu dernièrement justement parler énormément de Maurice Papon. Et c'est ça que... Il nous fait réfléchir davantage, disons, à cette personne-là qu'aujourd'hui, les Français ils sont en train de juger pour sur le problème des Juifs, la déportation des Juifs. Et comment ces messieurs qu'aujourd'hui, on juge pour les crimes qu'il a commis, il était préfet des polices
déjà à Constantine
à Paris en 1961. C'est ces personnes qui ont jugé aujourd'hui pour les problèmes avec les Juifs. C'est-à-dire sans dire un mot de le rôle qu'il a joué dans la répression des manifestations des Algériens à Paris, qui sont aussi des crimes aussi grands que ceux-là qu'il a commis avec la déportation des Juifs. Je pense que même si au niveau de la justice, il n'y aura pas des accusations sur son activité pendant la répression. L'histoire, de toute façon, ne l'oubliera pas, comme on dit, du point de vue du rôle qu'il a joué dans la répression des Algériens. Je voulais ajouter quelque chose que j'ai pensé à tout à l'heure même.
Oui.
C'est l'ampleur des manifestations des Algériens en France, que c'est une démonstration de comment tous les peuples algériens, tous les Algériens, n'importe où qu'ils se trouvent, ils sentaient le besoin de participer à la lutte pour l'indépendance. J'ai pensé aussi avant que moi-même, je suis un produit de cet événement de la révolution algérienne, qu'il a parcouru le monde et qu'il a réussi à mobiliser des intellectuels, des peintres, des poètes, des écrivains partout dans le monde pour défendre les droits de l'Algérie à l'indépendance. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit que sur les manifestations de octobre 61, ce n'est pas encore assez. Comme il disait ici notre ami le cinéaste, qui ne trouve pas des images, évidemment, parce que
il y a eu une censure automatique.
Le gouvernement français, même si s'il y avait des Algériens qui auraient voulu prendre des images sur la répression, ils l'auraient interdit complètement, c'est évident. Non seulement, s'il y a eu quelques images qui ont été prises par hasard comme ça, ils l'ont sûrement après caché, ils l'ont sélectionné de ce côté. C'est pour cela, évidemment, que c'est difficile la réalisation des films sur la répression et tout cela. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il disait lui. Et sans images et tout cela, on peut pas, les images, on ne peut pas la créer.
C'est-à-dire, l'image est une mémoire visuelle.
Oui. Oui. La peinture, bon, justement, la peinture aussi, il y a eu des peintres qui ont fait des images sur la répression et tout ça. Mais la peinture, c'est imaginatif. Le cinéma, il a besoin des autres moyens concrets pour se présenter dans la pellicule et tout ça.
Et Monsieur Kamel, tout à l'heure vous avez dit quelque chose qui est passé comme ça, mais qui semble intéressante. Papon n'était pas seulement préfet de Paris à cette époque, mais il était en Algérie bien avant.
Il était à Constantine.
Oui.
Il occupait les mêmes fonctions. Donc, Papon, pour l'histoire, reste un des parfaits commis de la répression coloniale. C'est un ordonnateur de massacres collectifs, aussi bien pendant la guerre mondiale que pendant la guerre d'Algérie, en Algérie ou sur le sol français pendant les événements d'octobre, justement, 61. Donc, nous, ce qu'on aurait aimé comme cinéaste, c'est-à-dire que nous aurions aimé avoir que pendant le procès de M. Papon, il y aurait eu des archives filmées de corps qu'on jette dans la Seine et qu'on les aurait projetées durant le procès, dans la salle du procès. À ce moment-là, on aurait vu la réaction de M. Papon, comme il aurait réagi devant ce qu'il a ordonné comme acte de police et comme acte de répression.
Malheureusement. Justement, ce procès ne fait allusion qu'au massacre de la Deuxième Guerre mondiale et les événements de Paris 1961, le 17 octobre en l'occurrence,
sont occultés.
Ont été occultés.
Complètement occultés, tout comme les massacres pendant la guerre d'Algérie. De toute manière, la France n'est pas prête de laver sa conscience par rapport aux événements de l'Algérie. Ce n'est pas encore le moment.
Et la haine de Papon contre ces événements du 17 octobre remonte à d'autres événements. C'est aux obsèques d'un brigadier qui a été victime d'un attentat, Maurice Papon a déjà proclamé.
Pour un coup reçu, nous en porterons 10. Lorsque vous vous sentez menacé, tirez les premiers. Vous serez couverts. Je vous en donne ma parole. D'ailleurs, lorsque vous avisez l'état-major qu'un Nord-Africain est abattu, le patron qui se rend sur les lieux a tout ce qu'il faut pour que le Nord-Africain ait une arme sur lui.
Revenons donc aux hommes de lettres, aux hommes de culture. Nous avons avec nous M. Kamel qui est réalisateur, qui fut monteur au niveau de la télévision, qui est aussi concepteur et producteur, et Mahmoud Mouniz qui est poète, philosophe, comme je le disais tout au début de notre rencontre. Pour parler de ces hommes de lettres, Kateb Yassine, par exemple, qui était sur place durant ces événements. Hein, Mahmoud Mouniz, vous qui avez écrit beaucoup sur Kateb Yassine, vous me faites un sourire, ça vous évoque des souvenirs, n'est-ce pas?
Oui, moi je pense que Kateb Yassine, c'est un de nos écrivains. Je dirais qu'il a le plus souffert des événements d'octobre 61. Parce que c'est l'homme, disons, au niveau culturel élevé. Et qu'il sent, je dirais peut-être plus profondément la répression des événements et tout ça. Je pense que Kateb Yassine, dans ce sens, il a été, je pourrais dire, sans exagérer, je pense, un phare du point de vue culturel de la révolution algérienne. Avec tous ces livres qu'il a écrits pendant la révolution, comme Nejema, ou des autres livres, Les cadavres encerclés, les autres livres qu'il a écrits, il a été l'expression, je pense, de ces profondeurs qu'il avait la révolution algérienne. Profondeur du point de vue non seulement combattante, sinon combattante dans tous les sens, aussi dans les sens guerriers, comme dans les sens culturels, politiques, diplomatiques, scientifiques et tout cela. Je pense que Kateb Yassine a été l'expression de tout ça. Et même, je dirais, en dépassant la révolution algérienne, avec des autres œuvres de théâtre, par exemple, comme La Palestine trahie, par exemple, qui c'est une œuvre magnifique, où il y en a, bon, c'est propre au caractère de Kateb Yassine, il y en a une dénonciation, non, de tout ça qui s'est passé un peu dans le monde arabe, non, et les Palestiniens et tout ça. Je pense que Kateb Yassine a été très très efficace dans toute cette activité culturelle et par rapport à les manifestations d'octobre 61, je pense que c'était un écrivain qui s'est, je pense, le plus souffert à cause de ses sentiments profonds, ses sentiments humanitaires profonds.
Monsieur Kamel Boualem, parlant de Kateb Yassine, de Jamel Amrani aussi, qui a bien décrit ces événements, est-ce qu'il y a eu dans votre monde, le monde du cinéma, des hommes qui ont vécu l'événement ou qui l'ont décrit tel que vous l'avez fait vous-même?
Il n'y a pas de... Les cinéastes n'ont pas pu filmer l'événement lui-même pendant son déroulement au cours de ces, bon, au cours des manifestations. Il n'y a eu que les Français, les Français qui étaient délégués par le pouvoir français pour filmer ce qu'il devait filmer. Donc, c'est Papon qui donne l'ordre de filmer ou de jeter dans la scène.
Effectivement.
Bon, donc, fatalement, nous ne pouvons pas avoir des images qui puissent nous donner des témoignages qui vont contre l'administration française. Bon, je voudrais bien dire un petit mot sur Kateb Yassine. Il ne faut pas qu'on oublie que Kateb Yassine n'a pas été simplement le témoin, un témoin pendant les événements d'octobre à Paris, mais il a été... bien avant 1945, le témoin oculaire de la répression féroce qui s'est abattue sur les manifestations du 8 mai 1945. Donc l'histoire pour lui ne s'est fait que répéter. Il a été le témoin de deux événements majeurs de l'histoire, très fort, surtout dans le domaine de la répression.
À propos de Kateb Yassine, nous allons écouter un extrait de La gueule du loup.
Après une perquisition de la DST dans ma chambre, j'avais quitté Paris pour Milan, puis j'étais allé à Tunis. Les manifestations du 11 décembre 1960 à Alger m'avaient inspiré un tableau de la femme sauvage, publié par El Mujahid, numéro 81, du 4 juin 1961. Refaire, moins d'un an après, la même démonstration à Paris, la capitale d'un empire qui avait, au début du siècle, prétendu dominer le monde, c'était se jeter dans la gueule du loup. Et c'est bien ce qui s'est passé le 17 octobre 1961.
C'était donc Bachir Saha qui nous a énoncé un extrait de La gueule du loup, entre guillemets, un récit de Kateb Yassine. Alors à présent, nous allons nous tourner vers le monde de la peinture, des couleurs, des formes, des souvenirs qui sont interprétés par le pinceau sur une toile, un bout de bois ou plutôt une aquarelle ou un pastel. Et parmi les artistes algériens qui ont immortalisé des événements historiques, que cela soit avant la guerre de libération nationale, pendant ou après, il y a donc Rassim, il y a Hadji Alaoui, Belkahla, Sehouli, Gaddouchi, Mohamed Sghir, Tahar Waman. Et en ce qui concerne le monde du cinéma, il y a le nom de Monsieur Kamel qui a fait des montages d'archives, qui a également réalisé des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires concernant la vie de Rassim. Entre autres, dans cette conservation de la vie de Rassim, il a rencontré une œuvre qui décrirait l'invasion de l'Algérie par le port de Sidi Fredj.
Dans la vie des artistes, les artistes sont souvent inspirés par les événements tragiques. Les événements tragiques ont toujours donné matière à réflexion aux artistes, surtout aux artistes peintres. Bon, un des exemples les plus frappants, c'est le tableau Guernica de Picasso.
De
Pablo Picasso, donc, qui est une œuvre monumentale qui relate le
massacre.
Le massacre du village de Guernica par les forces nazies. Et là, bon, dans la conquête de l'Algérie aussi, Rassim a fait une œuvre admirable, très très forte, une œuvre qui décrit avec précision, avec beaucoup de doigté d'art, ce débarquement qui marque le début de la colonisation algérienne, donc du drame algérien qui allait déboucher sur le 17 octobre, entre autres.
Incontestablement. Et M. Mahmoud Mouniz?
J'ai pensé aussi que les peintres, c'est ceux gens-là qui sont les plus de difficultés à s'exprimer, parce que la peinture, ce n'est pas seulement l'imagination, sinon que c'est les images, la vie des images qui les permet aux peintres de s'exprimer, de faire ces tableaux et tout. J'ai pensé, en parlant des peintres, j'ai pensé à Issachem, par exemple, que c'est l'expression jusqu'au monde de tout ça qu'il a souffert le peuple algérien à partir de son bras qui lui manque à cause de l'explosion d'une grenade,
oui.
Et tout cela. C'est-à-dire qu'à partir de qu'il était enfant, il a commencé à souffrir les événements de la lutte du peuple algérien contre la colonisation. Je voudrais citer une petite anecdote. On a été une fois avec ma famille à visiter une exposition de peinture de Issachem. Avec ma femme et les fils, et on visitait, on regardait les différents tableaux. On arrive à un tableau où il y en a le visage de la femme sauvage, il l'appelait lui, où il n'a pas des yeux ni de... Et alors, mon gosse, il regarde le tableau, il me dit, papa, il dit, C'est là, qu'est-ce que c'est? C'est la femme sauvage.
Et il a trouvé
c'est-à-dire
le titre.
C'est-à-dire que son imagination, il a lié à la route qu'il y en a au ruisseau là-bas, de la femme sauvage. C'est-à-dire que c'est ça qu'on apprécie, si on veut, de la peinture d'Isiahem, non? Comment des autres, il y en a des autres peintres qui peintent la joie et tout ça, non? Mais Isiahem, il a tendance à peindre
la mélancolie,
les tragiques,
le drame qui porte en lui,
le dramatique et tout cela, que c'est sa vie, je pense. Il a terminé sa vie aussi dans
le
situations
drame aussi.
Tragiques, c'était tragique.
Effectivement. Alors, à présent, nous allons nous consacrer à une étude d'œuvres picturales. Les tableaux énoncés portent des titres presque semblables et évoquent des scènes de massacre de l'homme par l'homme. Le massacre des triumvirs est décrit par Antoine Caron, ce peintre français, maniériste, né en 1521, dans un décor romain et dans un style classique, réaliste et fantastique. Les triumvirs, ces trois hommes, associés au pouvoir, dont l'abus dépasse les limites de l'imaginaire par la force de tuer, afin d'imposer aux Romains les lois insensées, massacre des hommes et des femmes désarmées. Hendrik Cornelis Vroom, hollandais, maître des marines, né en 1566, est l'auteur de « La bataille navale de Gibraltar » où explose le vaisseau amiral espagnol le 25 avril 1607, projetant hommes et objets vers le ciel. Une scène qui se déroule sur un pont, c'est l'expression parfaite de la légende de la guerre de Troie. Cette guerre titanesque et symbolique entre les armées grecques et les Amazones. C'est une œuvre de Rubens, ce diplomate et peintre flamand, né en 1577. Et c'est par ce combat des Amazones déchirées, gisant au sol, qu'il raconte l'Antiquité et ses moments sanglants. Néoclassique, réaliste, avant-gardiste, maître des héros antiques, s'inspire des habitants des montagnes de la Sabine, c'est Jacques-Louis David, ce peintre français, né en 1748, qui relate une réalité romaine, l'enlèvement des Sabines. Dans tous les pays du monde, depuis que l'homme habite la terre, l'expression naturelle du mal, de la guerre, du massacre trouve sa place à chaque moment et à chaque endroit. Des exploits, des conquêtes, des batailles, symboles de fierté d'un peuple qui s'étend, qui s'agrandit, ou qui se libère au prix de corps piétinés, écrasés, déchiquetés, pour s'acheter l'histoire et pouvoir un jour la marchander au nombre de lignes accordées dans les livres. Je reviens à vous, Monsieur Kemel, Monsieur Mouniz. Je reviens également à cet événement du 17 octobre 1961, le massacre qui s'est déroulé et dont la scène en est témoin, pour parler du comportement et des réactions des hommes politiques de l'époque, que cela soit en Algérie ou ailleurs dans le monde. Je citerai au passage la citation d'Ousset Dir, qu'on écoutera dans quelques instants. Mais quel était donc le comportement de ces hommes qui étaient là au pouvoir et qui voyaient ce massacre en direct?
La première réaction, c'est celle du général de Gaulle, qui est resté indifférent.
Oui.
Donc ça, c'est la voix officielle de la France qui a été proclamée ouvertement. Donc la France a fait un acte qu'elle a jugé bon de faire et qu'elle a pris acte de ce massacre. Donc il fait partie de son plan de colonisation de l'Algérie. Donc chaque fois qu'il y a une velléité de demande d'indépendance de la part du peuple algérien, elle est réprimée donc, par le sang et par le fer. Donc il ne faut pas s'attendre de la part des officiels français à quelconque remords ou quelque chose comme ça. Bon, c'est vrai qu'il faut signaler que la gauche française a quand même réagi positivement. Elle a fait des actions de condamnation dans concernant les événements d'octobre 61. Bon, en Algérie, c'est pas la peine de chercher de le FLN. Bon, la Fédération de France surtout a protesté énergiquement, elle a pris acte de ça comme étant un génocide. Il faut aussi signaler que dans le monde entier, il y a eu des réactions aussi contre il y a eu des prises de position de la part des autorités égyptiennes, de la part des autorités tunisiennes, des pays du tiers-monde en général, de la Yougoslavie, qui a condamné énergiquement ces massacres-là. Le général de Gaulle, qui il ne faut pas l'oublier aussi, il faut le signaler, qui est un général donc, qui pendant son arrivée au pouvoir, a multiplié les effectifs militaires en Algérie par deux ou trois, je ne sais pas combien.
Monsieur Mahmoud Mounis, concernant la position des hommes politiques au pouvoir à cette époque-là,
Je pense qu'il y en a les tendances politiques qu'il faut présenter un peu, c'est-à-dire dans le monde, non seulement en France, les tendances de gauche, les tendances de droite, les tendances de gauche qui sont manifestées clairement, leur opposition à la répression, y compris en France, avec beaucoup de gens qui sont même participé à la
manifestation,
en aidant la révolution algérienne dans sa lutte pour le triomphe, pour son indépendance. Mais la droite, comme manifestait Kamel aussi, le même. Tant des ministres de droite français comme le même de Gaulle, que certains gens, ils disent que c'est grâce à de Gaulle que l'Algérie a eu l'indépendance et tout cela. Les témoins savent que de Gaulle, quand il a pris le pouvoir, quand il a réussi à avoir le pouvoir, il n'est venu pas pour faire comme il a fait après les accords de Vienne, les négociations, sinon qu'il est venu pour réprimer, comme disait Kamel.
Oui.
Il a renforcé toute l'armée, les moyens qui disposait l'armée, l'intervention de l'OTAN aussi, de la plus grande participation à l'OTAN dans la guerre d'Algérie, tout ça.
Effectivement.
De Gaulle, comme le représentant de la grande bourgeoisie française, des grands capitales français. De Gaulle est venu pour mater la révolution algérienne. Quand il a vu que ça allait devenir au capital français énormément de dépenses, des milliards et des milliards, j'avais des statistiques, c'est combien ils dépensaient par jour les Français dans la guerre d'Algérie. De Gaulle il a dit, bon, il faut négocier, il faut arriver à un accord, et en tirant le maximum de bénéfices. C'est pour cela qu'au commencement, il a commencé en disant l'indépendance pour toute l'Algérie, sauf le Sahara, qu'il était le pétrole.
Oui,
ça, c'est la réaction de tous les politiciens représentant les couches bourgeoises ou capitalistes, disons, françaises, etc. Je pense que c'est les positions politiques face à la révolution algérienne et aux événements du 17 octobre, ils sont déterminés pour les intérêts des pays, de la France, en Algérie, etc. Je pense que c'est comme ça. Évidemment, moi, comme on dit, et la plupart des gens, comme moi, dans le monde, qui a eu peut-être beaucoup plus que des gens, ils étaient pour l'indépendance de l'Algérie. À tout prix et par n'importe quel moyen. Les droits d'un peuple comme avant, ils étaient les Vietnamiens, comme ils étaient des autres peuples qui sont acquis l'indépendance, luttant justement contre la même armée française. Et on a trouvé, soit dans la manifestation de 61 ou avant, en Algérie, des généraux qui avaient été au Vietnam.
En Indochine.
En Indochine, on les a trouvés ici, après, pour réprimer la lutte du peuple algérien pour son indépendance.
Mm-hmm. Nous restons toujours avec ce thème, position des hommes politiques, et c'est un extrait d'une interview qui a été réalisée par Algérie de l'émigration, là où répond M. Oussedir, et c'est lu par Farhat Mohamed.
Les crimes contre l'humanité ne sont ni des crimes d'agression ni des crimes de guerre. Ce sont des crimes qui relèvent d'une telle horreur qu'ils blessent la conscience à un tel point qu'il faut les sanctionner.
Pour commémorer la journée du 17 octobre 1961, avec nous ici Monsieur Kamel Bouahlem, cinéaste, et Monsieur Mahmoud Mouniz, poète. Nous arrivons presque au terme de notre rendez-vous. Pour finir, je lirai les dernières rimes qui ont été écrites par notre ami Mouniz. Mon univers est immense, personne n'a pu connaître son immense immensité. Les déserts sont incertains, mais ils ont leur richesse pour empêcher la pauvreté de ceux qui n'ont pas de paresse. Roberto Mahmoud Mouniz, le 10 janvier 1989. Et pour revenir aussi à vous, Monsieur Kamel Bouahlem, je disais lors de votre présentation que vous êtes cinéaste, que vous êtes aussi en pleine recherche dans le monde de l'audiovisuel, que vous êtes ce monsieur qui essayait d'effacer les effets de la bêta-cam du monde moderne de la photographie et de l'image pour lui donner cet aspect très nostalgique du passé. Vous travaillez aussi les clairs-obscurs dans votre image, c'est ce que j'ai pu surprendre une fois en passant par une cellule de montage. Aujourd'hui, c'est un grand bonheur de vous avoir parmi nous. Un tout petit dernier mot, Monsieur Mouniz, pour nous permettre de nous quitter
merci,
sur une note d'amitié.
Remercie la chaîne 3 de m'avoir permis de participer dans ce débat sur le 7 octobre 1961. Je remercie aussi Nariman, qui nous a, disons, je dirais, aidé énormément pour son orientation sur les événements de octobre 1961. C'est tout, merci beaucoup.
Merci, M. Mahmoud Mouniz. M. Boualem Kamel.
Oh ben moi, j'espère que simplement que le 17 octobre sera une journée plus belle que celle de 61.
Nous l'espérons tous.
Voilà, merci beaucoup.
C'était donc Les Barbelés de la mémoire, un extrait de l'histoire qui a convié aujourd'hui nos deux amis M. Boualem Kamel et M. Mahmoud Mouniz. Nous remercions tous ceux qui ont prêté leur voix pour une lecture de l'histoire, en l'occurrence M. Farhat Mohamed, M. Majid Sadouni, M. Nabil Baroul, M. Bachir Seha et surtout celle qui a illustré les textes de Waïba Lafifi d'un fond et d'une forme dans la réalisation, Mme Jazia Ben Habiles. Je vous laisse avec La liberté de Paul Éluard, interprétée par Jairo. Au revoir.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues. Sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois. J'écris ton nom sur la jungle et le désert, sur le nid, sur les genêts, sur l'écho de mon enfant. J'écris ton nom sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées. J'écris ton nom sur tous mes chiffons d'azur, sur l'éteint soleil moisi, sur le lac lune vivante. J'écris ton nom sur le champ, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ondes.
ténèbres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur toute chair à convée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour